sais, nous sommes venus aujourd'hui pour t'adorer, pour vraiment te louer, pour t'écouter aussi nous parler. Et nous te prions de fortifier nos corps, de bénir ceux qui sont présents, mais de bénir aussi ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu être là. Et nous prions vraiment, Seigneur, que la grâce qui repose dans ce lieu les atteigne là où ils sont, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous te bénissons pour ta parole qui va être donnée par ton Saint-Esprit au travers de moi. Et je te prie simplement de m'utiliser comme un instrument, comme un canal, et que tu déverses dans le cœur de ton peuple ce que tu as prévu déverser pour la gloire de ton Saint-Nom, afin de pouvoir leur donner les outils, l'équipement nécessaire pour vivre leur vie chrétienne sur la terre de façon victorieuse, avoir une foi triomphante, une foi de conquérant, une foi de victoire, une foi qui opère des miracles dans leur vie quotidiennement, une foi qui fait en sorte que Dieu soit réel pour eux dans chaque aspect de leur vie. Alors Seigneur, nous te prions vraiment de déverser ton onction pendant ces temps d'écoute de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. J'étais ce matin donné le message, la parole de Dieu. J'étais invité hors de Bordeaux à la Brède. Donc il y a une organisation internationale, une organisation inter-église qui m'a invité. Je suis allé avec deux collaborateurs, le frère Samuel et le frère Igor. Donc ils ont invité le pasteur Sosten pour apporter la parole. C'est lors d'un camp qu'ils ont organisé et qui s'achève aujourd'hui. Et donc nous avons parlé du sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Alléluia. Je leur ai posé la question, combien de temps vous m'accordez? Ils m'ont dit 45 minutes. Ils avaient un programme hyper chargé. J'ai dit, bon, je vais faire le maximum de respecter les 45 minutes. Et en 45 minutes, Dieu a parlé à son peuple, mais Dieu a plus que parlé à son peuple. Dieu a travaillé dans les cœurs, il a travaillé dans les corps. J'ai simplement enseigné la parole de Dieu. Et quand les 45 minutes sont arrivées, j'ai arrêté, je suis allé m'asseoir. Plus personne ne pouvait arrêter la suite, ni contrôler la suite des événements. J'avais fini, je me suis assis, le Saint-Esprit a pris le reste du contrôle. Alléluia. Il y avait des gens qui tombaient de partout, qui priaient à haute voix, qui criaient tellement le message, transperçait leur cœur. Et le Saint-Esprit vraiment a commencé à faire son œuvre, celle qui conduisait la réunion, qui officiait. À chaque fois qu'elle voulait prendre la parole, on ne pouvait pas, l'Esprit descendait sur elle, au point qu'elle ne pouvait même plus parler, il fallait que quelqu'un d'autre vienne prendre la parole. Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. C'est vraiment formidable. Et vous pouvez voir l'accomplissement de Marc chapitre 16 qui dit « Il accompagnait sa parole. » J'ai simplement parlé de la part de Dieu. J'ai simplement prêché. Je suis allé m'asseoir. Le Saint-Esprit a agi. Il s'est saisi la parole. Alléluia. Et le frère Igor qui a mené les livres « Conquérir la sphère héros » est tellement envahi. Tout le stock était épuisé à la fin. Alléluia. Dis à ton frère que tu passes à côté de quelque chose, une mine d'or, si tu n'achètes pas ce livre. Alléluia. Nous parlons depuis quelques semaines d'un thème hyper important, un thème puissant. Oui, c'est puissant. Alléluia. Qui se souvient de ce thème? C'est écrit, hein? Mais pourquoi vous leur avez donné le... Franchement, c'est pas possible. Hein? Ok, dites-le quand même. Nous parlons de quel thème? Comment opérer dans la sphère divine? Alléluia. C'est un thème qui me parle beaucoup ces derniers temps et je crois que les uns les autres ont commencé à vivre des expériences puissantes en appliquant les principes que j'enseigne ces derniers temps dans le cadre de ce thème. Je me souviens la première fois que j'enseignais les trois dimensions de la divinité. Je disais que notre Dieu, nous sommes esprit, âme et corps et nous sommes à l'image de Dieu. Ça ne voudrait pas simplement dire que parce que Dieu est esprit, nous aussi nous sommes esprit. Percevoir les choses de cette manière voudrait simplement réduire Dieu à un simple esprit. Et très souvent, la religion nous a enseigné que lorsque la Bible déclare que nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ça va simplement dire qu'en fait, comme Dieu est esprit, nous aussi nous sommes esprit. C'est vrai en partie. Mais nous avons effectivement précisé que lorsque la Bible déclare que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance, le mot image veut dire le reflet. Et ressemblance intègre la personnalité, l'identité, le caractère, alléluia, et toutes les vertus, les valeurs de la personne. on a compris qu'en fait, quand la Bible déclare que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous avons un reflet de Dieu qui est notre corps. Et nous avons effectivement sa ressemblance qui est effectivement la partie intérieure. Or, la partie intérieure de notre être, c'est l'âme et l'esprit. Donc, lorsque la Bible déclare que nous sommes à l'image de Dieu, ça voudrait dire qu'en fait, la même manière que Dieu est tridimensionnel, nous aussi, nous sommes tridimensionnels. Nous avons démontré effectivement par la parole de Dieu, par des versets clairs et nets, que Dieu a un corps. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Par quel moyen? Hébreux chapitre 5, 10, verset 5. Tu n'as voulu sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc le Fils, c'est l'incarnation corporelle de la divinité sur la terre. Et la Bible déclare que toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc le Fils révèle le Père de façon visible. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ qui devons révéler Dieu de façon visible. Nous sommes l'incarnation de Dieu sur la terre. Et ensuite, on a vu qu'effectivement, Dieu avait une âme, car lorsque la méchanceté des hommes s'était accrue sur la terre, Dieu fut affligé en son âme. Le mot âme, traduit par cœur en hébreu, et nous voyons que la parole de Dieu, effectivement, tantôt la Bible parle de cœur dans le sens d'esprit, tantôt il parle de cœur dans le sens d'âme. Et dans ce verset bien précis, il s'agit d'une âme, car l'âme est la résidence, est le siège de nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos traditions, etc. Donc si Dieu a des sentiments, il peut ressentir de la tristesse, il peut ressentir effectivement la joie, ça ne peut qu'être dans son âme. Alors nous comprenons effectivement que cette âme-là, effectivement, c'est le siège de la paix, la joie, la justice, etc. Mais c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire que, en fait, l'âme de Dieu, c'est simplement la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous incarnons le Saint-Esprit, nous incarnons le caractère de Dieu, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, ses valeurs, ses vertus. Et donc, en ce moment, nous intégrons l'âme divine qui est différente d'une âme humaine. Et nous savons que l'âme humaine, sa vie est dans le sang. Alors que l'âme divine, sa vie n'est pas dans le sang. Sa vie est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Alléluia. Et quand nous revêtons la nature divine, nous revêtons le Saint-Esprit, car sa divine puissance, laquelle, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Car sa divine puissance, laquelle, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous donne de pouvoir revêtir la nature divine. Alors en ce moment, effectivement, nous pouvons ressentir ce que Dieu ressent, avoir les pensées de Dieu, les émotions de Dieu, le caractère de Dieu, etc. Maintenant, l'Esprit, c'est quoi? C'est simplement la dimension du Père en nous. Le Père, il y a une différence entre le Père qui est Esprit et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu, le plus grand. Jésus a dit, il est plus grand que moi. Le Père, le plus grand, c'est lui, Esprit. Et ce Père, eh bien, il est notre Père. Il a donné naissance à des enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes donc enfants de Dieu aussi dans le sens que nous sommes des dieux, des divinités. Parce qu'un chien donne naissance à un chien. Alléluia. Un chat donne naissance à des chatons. Amen, amen. Des poissons donnent naissance à des poissons. Mais la Bible nous déclare que, ne savez-vous pas que vous êtes tous des dieux, des fils du Très-Haut. Donc, Dieu donne naissance à des dieux. Et Dieu, nous, esprit, c'est la dimension de Dieu le Père en nous. C'est pourquoi il est écrit que l'esprit, alléluia, rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et on a terminé en disant qu'il y a dans le jardin d'Éden deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait trois éléments. Il y avait quoi? Il y avait le bien, le mal et la vie. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive selon la connaissance du bien et du mal. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et la mort était représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, tu mangeras de tous les arbres dans le jardin, y compris l'arbre de vie. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que la mort y est attachée. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait quoi? Représentait simplement la nature humaine. Et à partir du moment où on a mangé cet arbre-là, on est devenu des humains et on vit humainement parlant. Dans tout ce que nous faisons, nous percevons les choses de façon humaine. Nous faisons tout de façon humaine. Quand je suis malade, la première réaction, je pense à quoi? Il faut aller voir le pharmacien. Il faut aller voir le médecin, parce que je suis humain. Quand j'ai faim, il faut que je mange. Même si, effectivement, il faut que je jeûne, j'ai envie de manger. Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine ne peut pas et est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et parce que nous avons mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, nous avons revêtu la nature humaine. Et tous les jours de notre vie, nous sommes attirés par cette nature. Et dans cette nature, il y a le bien, il y a le mal. Mais tout ce qui est bien n'est pas forcément divin. Et la volonté parfaite de Dieu n'avait pas été que nous puissions marcher selon le bien. Le mal, nous le reconnaissons. Et nous pouvons facilement le distinguer et nous en écarter. Mais le bien, parfois nous choisissons très vite le bien au détriment de la vie. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions marcher selon le bien. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions marcher selon la vie. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parce que la vie, c'est la vie. Dans la vie, il n'y a pas la mort. Non seulement il n'y a pas le mal, mais dans la vie, il y a le bien, c'est sûr. Le bien selon Dieu. Mais dans la vie, il y a l'éternité. Alléluia. Dans la vie, il y a l'éternité. Dans la vie, il y a la divinité. Et la volonté de Dieu était que nous puissions marcher selon la vie. Et il a dit, mangez tout ce qui, dans le jardin d'Éden, porte de la vie. Tout ce qui porte la vie. En fait, avant que l'homme le pêche et que le péché ne vienne sur la terre, tout ce qui existe, les fleurs, les arbres, la forêt, les fruits, quand vous prenez une feuille, vous la mangez, à l'intérieur, il y avait la vie. Il y avait la vie. Et c'est l'image de ce qui se passe dans le ciel. Quelqu'un a posé la question, quand Jésus reviendra et comment sera dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle des noces de l'agneau et que sur la table, il y aura des mets succulents. Qu'est-ce qu'on va manger ce jour-là? On va manger quoi? Est-ce qu'on va manger le manioc, le pain de frère Samuel? Est-ce qu'on va manger le poisson? Est-ce qu'on va manger... En fait, on va manger tout ce qui existait dans le jardin d'Éden avant que le péché n'arrive. Tout ce qui porte la vie. Dans le ciel, il y a des fruits. Les fruits qui ont existé avant que le péché ne vienne. Ces fruits dans lesquels il y avait la vie. Et quand Dieu a dit à Adam, mange tout ce qui porte de la semence de vie. Ce sont ces fruits-là qui seront au ciel. On pourra reconnaître la pomme, mais ce ne sera pas la même pomme. On pourra reconnaître la mangue, ce ne sera pas la même mangue. On pourra reconnaître le kiwi, mais ce ne sera pas le même kiwi. Rassurez-vous, il y aura des huîtres, mais ce ne sera pas les mêmes huîtres. Alléluia. Parce que ce qu'il y a dans le ciel porte la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement dans le ciel. La vie éternelle, c'est elle existait déjà dans le jardin d'Éden. Parce que jardin d'Éden, Éden veut dire le ciel sur la terre. Donc tous les fruits, toutes les plantes qu'il y avait sur la terre portaient la vie divine, la vie éternelle. Et quiconque en mangeait avait la vie en abondance. Et il a dit à Adam, mange tout ce qui porte de la vie. Et mange l'arbre de la vie. Mange que la vie. Mange, nourris-toi de la vie de façon permanente. Mange la vie. Bois la vie. Marche la vie. Dors la vie. Lève-toi et marche et vis dans la vie. Et tu vivras éternellement. Tu ne mourras pas. Et quand l'homme pêche, il connaît la mort. Mais Dieu est bon. Le premier Adam a échoué, le second Adam arrive. Et l'objectif du second Adam, c'est quoi? C'est de nous permettre de retrouver la position initiale. Et c'est pourquoi la Bible nous demande de nous revêtir aujourd'hui au travers du sacrifice de la croix, à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Nous avons la capacité de nous revêtir à nouveau de cette nature divine que nous avions perdue à cause du péché. Et je disais que quand le diable a dit à Adam que si tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu, c'était un mensonge. Parce que Adam était déjà comme Dieu. Il avait déjà la nature divine. Est-ce que le corps de Dieu peut être atteint par la maladie? Je vous pose la question. Non. Est-ce qu'un démon peut habiter dans le corps de Dieu? C'est comme ça qu'Adam était avant de tomber dans le péché. Aucune maladie ne pouvait pénétrer son corps. Aucun microbe ne pouvait pénétrer son corps. Aucune bactérie ne pouvait détruire ses cellules. Aucune. Et aucun démon ne pouvait habiter son corps. Parce que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il avait la nature divine. C'est à cause de cela qu'il pouvait dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Voilà pourquoi il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. En d'autres termes, l'homme ne pouvait pas dominer avant d'avoir revêtu la nature et la ressemblance de Dieu. Donc avant de lui conférer la domination, le gouvernement de la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu d'abord lui donne sa nature, sa ressemblance, son image, son identité divine. Et une fois l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors en ce moment-là seulement, l'homme a été capable de dominer. Et aujourd'hui, si nous revêtons la nature divine, comme l'enseigne 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3, si nous revêtons la nature divine, nous retrouvons cette position initiale. Parce que nous devenons en fait des enfants de Dieu, nous sommes des dieux sur la terre. Et aucune maladie ne peut rentrer dans notre corps. Et la vie, notre vie ne se trouve plus dans le sang parce que la vie est dans le sang de l'être humain. Mais notre vie, en tant que divinité, en tant qu'être divin, ne se trouve plus dans le sang, mais se trouve dans le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, nous avons été coupés de l'arbre généalogique de nos parents. Toute maladie héréditaire s'arrête. Et si un microbe vient à nous et veut pénétrer notre corps, il ne pourra pas. Si un serpent vient à nous piquer, le venin du serpent ne pourra rien nous faire. C'est pour cela que Marc, chapitre 16, verset 17, dit, « Même si un serpent venait à vous mordre, vous pourrez saisir un serpent et les serpents ne vous feront rien. Vous pourrez boire même des poisons mortels. Les poisons mortels ne pourront rien vous faire. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous avez revêtu la nature divine. » C'est la raison pour laquelle Paul, quand il va à Rome, dans le bateau, qu'est-ce qui se passe? Un serpent venimeux va le mordre. Pendant que tout le monde est paniqué et s'attend à ce qu'il meure, Paul va simplement secouer le venin comme ça. Pourquoi? Parce que même le venin du serpent ne peut plus rentrer dans ton corps. Et même si un microbe ose rentrer dans ton corps, il va être tout de suite complètement détruit et neutralisé par la vie qui coule en toi. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous puissions en fait être remplis de la vie, la vie. Il ne parle pas du bien et du mal. Il parle de la vie. Parce qu'il n'y a rien qui peut surpasser la vie de Dieu. Il appelle ça la vie éternelle parce que dans cette vie est attachée l'éternité. Or, la vie humaine, à cette vie humaine, est attachée la mort. Il a dit, si tu manges la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, le bien et le mal, c'est humain. Le bien, c'est bien. Mais seulement dans le bien de l'homme est attaché quelque chose qu'on appelle la mort. Alors que dans la vie que Dieu donne, il y a le bien de Dieu, il n'y a pas la mort, il n'y a pas le mal, mais il y a la vie. Et à cette vie, sont attachés quoi? Sont attachés l'éternité et l'incorruptibilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à revêtir la nature divine. Dans quelle sphère tu vis chaque jour? Dans la sphère humaine ou dans la sphère divine? Tout dépend de ce que tu fais chaque jour. Les actes que tu poses sont fonction de ta nature. Et nous avons vu que l'apôtre Paul nous révèle que c'est un dilemme, c'est un combat. Parce que dans Romains chapitre 7, il nous montre que chaque jour de notre vie, nous sommes dans un combat. C'est le combat de la foi. Il dit, le bien, je sais que c'est bien, il est en moi. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Je me sens comme attiré chaque jour à faire le mal. Et le bien qui est en moi, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis. Qui me délivrera de cette humanité? Misérable que je suis. Qui me sortira de ce carcan? Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que par Jésus-Christ, la loi du bien, non. Du mal, non. Mais la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Dans le Christ Jésus, nous a affranchis, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous a libérés de ce carcan humain. Nous a libérés de cette humanité. Alléluia. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh, alléluia. Et nous avons vu que la première loi qui nous permet d'opérer dans la sphère divine, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. La loi de l'esprit que le monde, que l'être humain ne peut pas recevoir de lui-même, si ce n'est au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Et quand la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, alléluia, bien-aimé, il t'a affranchi. Et tu dois croire qu'il t'a affranchi. Et le problème, c'est que la loi de l'esprit de vie nous a réellement affranchi.
Mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne sommes pas réellement conscients que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme étant des hommes libres. Mais nous nous regardons comme étant des hommes encore emprisonnés. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme des gens qui sont libérés du péché. Mais nous, chaque jour de notre vie, nous sommes encore conscients de nos péchés. Et nous vivons encore dans notre humanité. Quand il nous voit, Dieu, il voit des hommes et des femmes guéris et bien portants. Parce qu'il est écrit que par les maîtrises de Christ à la croix, nous sommes déjà guéris. Alléluia. Mais nous, face à la maladie, nous nous considérons encore comme des gens qui sont atteints par la maladie. Et nous parlons comme des gens malades. Alors que Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit pas malades, il nous voit des hommes et des femmes guéris. Et plus que guéris, bien portants. Parce qu'un Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour lui, pour qu'il soit guéri, il est en bonne santé. Donc la nature divine en nous, nous garantit la bonne santé, et c'est comme ça que Dieu nous voit en bonne santé. Mais nous, parce que nous choisissons de vivre dans l'humanité, chaque jour nous sommes conscients de la maladie, conscients des démons, conscients des... Et chaque jour on est là, oui les démons, oui la maladie, oui les démons. Mais dans quelle sphère tu vis? Oh mon Dieu, pose la question à ton frère, mais tu vis dans quel monde? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Connexion! Connexion! Qui garde le contact là? Qui est connecté? Tout le monde est connecté? Dans quel monde tu vis? Mais parfois, je suis impressionné. Quand je fais des entretiens, mais j'ai envie d'entendre autre chose. J'ai envie d'entendre autre chose. J'ai envie d'entendre quelqu'un qui vient me voir. Pasteur, vraiment? Quand tu as apprécié tel message, je suis parti, j'ai mis ça en application. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais quand tu reçois les pasteurs, vous savez que c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est dur, le pastorat c'est dur. Vous avez enseigné. Quand je reçois quelqu'un, pasteur, je viens te voir parce que l'autre jour là, quand j'ai dormi dans la chambre, j'ai senti comme un vent qui a soufflé et j'ai eu la chair de poule. Jusqu'à présent c'est normal, bon. On est quand même humain. Mais c'est la suite qui est inquiétante. Et tout à coup, je me suis réveillé et puis j'ai commencé à sentir autour de la maison des chats qui miaulaient, etc. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai dormi, j'ai vu un serpent qui me poursuivait la nuit, dans le rêve. Et puis j'ai vu un homme habillé en noir qui me poursuivait. Et puis, pasteur, je viens te voir vraiment parce qu'il faut que tu pries pour moi. Je crois que vraiment il y a un problème sérieux dans notre famille. Je pense que vraiment notre famille est maudite. Donc, après avoir expliqué tous ces principes-là, quand un pasteur écoute ça, tu dis, mon Dieu Seigneur, dans quel monde elle vit celle-là? Dans quel monde elle vit? Il y avait un pasteur, un jour, il faisait délivrance. Et puis, il rentre chez lui, il était fatigué. Il a fait sa prière, il voulait se coucher. Et là, dans la chambre, il y a eu de l'éclipse. Et puis il voit un être qui apparaît. C'est Lucifer. C'est possible. Ça existe. Il se présente, il dit, moi je m'appelle Lucifer. Il lui dit, tu es pasteur, voilà, je suis au courant de ce que tu fais dans la vie, tu enseignes ceci et cela. Je suis venu te voir, tu vois, si tu arrêtes de prêcher sur ce nom-là, tu arrêtes de prêcher sur ce message-là, tu arrêtes de faire ça, moi, je te garantis le succès dans ton ministère. Je vais t'envoyer plein de personnes dans ton église et je vais te créer des points de connexion et tu vas avoir beaucoup d'argent, tu seras riche. Mais à condition que tu arrêtes de prêcher sur ça, 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 ça. Et le pasteur a regardé, il a écouté. Il dit, bon, tu as fini? Lucifer dit, oui, j'ai fini. Il dit, franchement, je pensais que tu avais quelque chose de plus intéressant à me proposer. Et il s'est rendormi. Je dis bien, il s'est rendormi. Est-ce que ça vous parle? C'est puissant, n'est-ce pas? Franchement, quand j'écoutais ce témoignage, non, honnêtement, entre nous, à notre place, comment aurions-nous réagi? Franchement, il se présente et je m'appelle Lucifer. Satan, dans ma chambre, Satan. Avant même qu'il ait commencé à parler, on commence à crier, courant, baba, chaka, baba. On va se souvenir de tous les versets de prière d'autorité que le prophète se a enseigné à l'école de délivrance. On va se souvenir de toutes les techniques. On va évoquer le sang de Jésus. On va appeler les anges. N'est-ce pas? Mais c'est bien tout ça. Mais quelle attitude Dieu veut que nous puissions avoir?
Et cette histoire m'a beaucoup enseigné. Il est resté là, il a écouté, et après il s'est endormi sans problème. Il ne s'est même pas d'abord assuré que Satan était parti de sa chambre. Non. Il s'est endormi, même pas pensé que si je m'endors là, il peut venir me...
Acclamons le Seigneur, alléluia.
Il s'est endormi et c'est normal. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Parce que Satan ne peut pas tuer des êtres divins. Les êtres divins vivent dans la vie, ils sont dans la vie, et il y a l'éternité attachée à leur vie. Pourquoi craindre celui qui peut tuer le corps, qui n'a pas le pouvoir de tuer l'âme et l'esprit et de la mettre en gêne? Et celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui voudra la perdre à cause du Seigneur Jésus, il la retrouvera parce qu'il vivra éternellement. Pas seulement au ciel, mais sur la terre aussi. C'est-à-dire qu'il aura la vie éternelle en lui qui va couler la vie éternelle. Ça, c'était la loi de l'esprit de vie. Et c'était important que je revienne là-dessus parce que je voulais vraiment que tout le monde, nous puissions être connectés. Je vais terminer mon enseignement aujourd'hui, mais puisque nous allons continuer l'enseignement avec d'autres lois, je vais terminer pour aujourd'hui en vous parlant de la loi de la foi. Dites la loi de la foi. Parce que comme je vous ai dit que la loi de l'esprit de vie a déjà tout pourvu. On a tout pleinement en Christ. Il s'est créé, tout est accompli. Mais comment faire pour que cette guérison-là, qui est déjà pourvue, cette liberté-là, quand la Bible déclare que je suis déjà libéré, la loi de l'esprit de vie m'a déjà libéré, comment faire pour que ces choses-là viennent à moi de façon manifeste? Comment faire que ça soit manifeste? Nous allons parler de la loi de la foi. Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Il est écrit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. Dites ferme. Dites assurance. Des choses que l'on espère. Dites espérance. Une démonstration. Dites démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Dites qu'on ne voit pas. Donc il y a cinq verbes ici. Okay? Cinq mots importants. Cinq mots clés. Il parle de la fermeté. Il parle de l'assurance, de l'espérance, de la démonstration et de l'invisibilité. Alors, je vais expliquer ça de façon simple. Je vais aborder la loi de la foi sous cinq principes. Cinq principes de la foi. Premier principe, c'est la loi de la perception. Je parlerai aujourd'hui de la puissance de la loi de la perception. Deuxième principe, c'est la loi de la connaissance. Parce que la connaissance a fermé la foi. Donc, la fermeté ici inclut le principe de la connaissance. Et c'est là que je vous parlerai des différents types de connaissances. Je vous disais la dernière fois que dans la parole de Dieu, le mot connaissance a plusieurs mots en hébreu. Ou en grec, il y a plusieurs mots. Il y a la connaissance humaine, il y a la connaissance divine. Et c'est là que je vais vous révéler le secret, comment faire pour quelqu'un qui n'a même jamais fait la terminale, comment faire pour passer ton bac et tu vas l'avoir. Quelqu'un qui n'a jamais eu son bac, comment il peut réussir à l'université? Quelqu'un qui n'a jamais appris un métier, comment, par la connaissance que je vais vous révéler, l'une des connaissances divines, il peut devenir expert dans un domaine que les gens ont pris 5 ans, 7 ans pour faire des études, avoir des grands diplômes, afin de devenir des experts dans ce domaine. Au point que même par cette voie-là, alléluia, il peut même devenir supérieur à ces personnes qui ont fait l'école humaine. Et comment cette connaissance-là peut t'amener à avoir un esprit supérieur? Ça va être le secret pour les étudiants. Pour que l'année prochaine, vous ramenez au pasteur ici des bulletins 100% réussite. Ça va être aussi bien pour ceux qui entreprennent et pour tout le monde d'ailleurs. Ça va être le deuxième enseignement. Le troisième enseignement portera sur l'espérance. On voit que la vie est attachée à l'espérance. Quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, okay, il dit, or ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Au départ, je pensais qu'il s'agit de l'espérance qui est dans la foi, puisqu'il y a l'espérance et la foi. Ce n'est pas pareil. Sinon, il n'aurait pas parlé de la foi, l'espérance et l'amour. Ça ferait une répétition. Il parle de trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Okay? La foi, on va en parler. L'espérance, ici, il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de l'espérance de vie éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, il s'agit de la vie éternelle. Donc, on parlera de la foi, de la vie éternelle. On parlera également de l'amour, la loi de l'amour. Mais la loi de la vie, on a abordé ça, on a parlé de l'esprit de vie dans lequel Jésus. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je parlerai beaucoup plus de la loi de la foi et de la loi de l'amour. Dans la loi de la foi, effectivement, nous avons cinq enseignements qu'on va commencer à avoir aujourd'hui. Donc, on parlera effectivement de l'espérance, on parlera de l'assurance et on parlera de la démonstration. Connexion? Alléluia? On garde le contact? Gloire à Dieu. La puissance de la perception. Dites la puissance de la perception. Prenons-nous bien dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 14. Dis à ton frère, il y a des enseignements qu'il ne faut pas seulement écouter. Il faut les mettre en application. Sinon, tu ne pourras jamais tester si ça vient de Dieu ou pas. Alléluia. Bon, la prédication, c'est super parce que sur l'effet spontané, des choses qui peuvent se passer, etc., on peut exercer le ministère. Mais l'enseignement, il y a des enseignements, il faut les vivre. Sinon, tu ne pourras jamais savoir si ça vient de Dieu ou pas. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Car je te le donnerai. La Bible déclare qu'Abraham se trouve dans une situation assez difficile. Il s'est séparé de sa patrie, de son père. Il vient de se séparer de son neveu Lot. Donc, quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas rentrer dans la sphère divine s'il n'y a pas de séparation. À un moment donné, il va falloir vous séparer parfois des liens humains, affectifs, pour pouvoir rentrer dans la sphère divine. Et donc, Abraham est dans une situation où Lot a déjà pris possession de la partie la plus intéressante du territoire. Et la Bible nous dit, Lot est dans un lieu qui premièrement était un ravin, un trou. Deuxièmement, ce lieu s'appelle Canaan, qui veut dire malédiction. Donc, Abraham est dans un trou et en plus sur une terre maudite. Mais dans une telle situation, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Regarde. Bon, dites-moi comment quelqu'un qui est dans un trou peut regarder. Qu'est-ce qu'il va voir? Soit il voit le noir, soit si le trou n'est pas fermé, il va voir le ciel, n'est-ce pas? Mais il dit, lève tes yeux et regarde tout le pays que tu vois. Quel pays il voit? Comment il peut voir un pays dans un ravin? Et il parlait du Moyen-Orient, il parlait d'Israël. Comment pouvait-il voir Israël? Premièrement, dans un trou. Deuxièmement, dans une terre maudite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. Votre possession, ce que Dieu veut vous donner, ce qu'il a prévu vous donner comme bénédiction, comme guérison, comme bonne santé, comme prospérité, tout ce que Dieu vous a donné, comme réussite, tout ce que Dieu a prévu vous donner, ne dépend pas de la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne dépend pas de la position dans laquelle vous êtes. Même si tu es né dans un village où le sorcier du village a éliminé tous les premiers-nés. À chaque fois qu'il y a un premier-né mâle, il tue. Même si tu es né dans un village où la terre est maudite, au point que toutes les filles de ce village-là ne vont jamais se marier
Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites avec les ancêtres ou avec les sorciers du village, de telle sorte que toutes les filles qui naissent dans ce village ne vont jamais se marier ou encore ne vont jamais avoir des enfants. Même si tu es né dans un village où les jeunes de ce village n'ont jamais dépassé le cap du bac, la Bible déclare, même si ce territoire s'appelle Canaan, terre maudite, Dieu te dit, lève tes yeux. Alléluia. Il dit, lève tes yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous voyons tout, sauf ce que Dieu veut nous montrer. Nous voyons le village, c'est une réalité. Nous voyons le sorcier, c'est une réalité. Nous voyons les générations qui sont nées avant nous et qui nous ont précédés et qui ont échoué, c'est une réalité. Nous voyons les filles, effectivement, qui sont nées là, les femmes qui sont nées là et qui n'ont jamais eu d'enfants, c'est une réalité. C'est un constat réel, on ne peut pas discuter. Et quand je discute avec certaines personnes, je vois que c'est des réalités. Les gens vivent des situations compliquées. Il y en a qui rêvent des monstres, qui voient des serpents en rêve. Quand elle se réveille, elle voit le serpent dans la chambre exactement comme elle est arrivée. C'est une réalité. Il y en a qui ont vu les démons se manifester sous des formes bizarres. Ce sont des réalités. Mais la Bible déclare, au-delà de ces réalités, si tu lèves tes yeux et que tu regardes un instant, au-delà de ces réalités, que tu essaies de voir, non pas ce que le diable veut te montrer, mais que tu détournes ton regard de ce que le diable te montre pour regarder un instant, soit peu, ce que Dieu veut te montrer. La Bible déclare, tout ce que tu verras, Dieu te le donnera. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop conscients des réalités. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, elle est humaine, mais la vérité est divine. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La réalité est dans l'humain. Et le diable travaille avec la nature humaine pour nous montrer les réalités. Et c'est vrai, tu rentres chez toi, il n'y a pas à manger, c'est une réalité, non? Et pourtant, la Bible déclare que, considère les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Père les nourrit. Et Dieu te dit que tu es béni, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais le congélateur est vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton congélateur est vide, ça c'est une réalité. Mais la vérité pour toi, c'est que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions, y compris la nourriture. La réalité pour toi, c'est que ton compte bancaire est à découvert. Et quand tu rentres à la maison, tu reçois des lettres recommandées tous les jours. Ça c'est une réalité. Même le huissier commence à envoyer, on commence à cogner la porte, etc. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que mon Père, Dieu, est celui-là à qui appartiennent l'or et l'argent. Il est celui-là qui est capable, même quand il n'y a pas l'argent en banque, d'aller pêcher un poisson, de tirer le poisson de l'eau, d'ouvrir le ventre du poisson et de faire sortir de l'argent. Oh, c'est quelqu'un qui comprend. La vérité, c'est que mon Père, Dieu, même quand il n'y a pas à manger, même dans un désert, il est capable d'ouvrir le ciel et de faire tomber la manne du ciel afin que je mange. La réalité, c'est que j'ai soif, mais la vérité, c'est que mon Père Dieu est celui-là qui est capable, dans le désert, d'ouvrir la bouche d'un rocher et de faire couler de l'eau. Le problème, c'est que nous sommes trop conscients des réalités humaines. Et nous voulons marcher toujours de façon humaine, dans la logique humaine. Est-ce que tu crois, mon frère, qu'un jour, même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de compte bancaire, tu te présentes devant un distributeur, comme ça tu regardes le distributeur, tu dis, argent sort. Vous voyez, vous riez même. C'est que vous ne croyez même pas. Mais Jésus a fait ça, il va dans le vent du poisson. C'est comme si c'est présenté devant un distributeur, il sort l'argent, il paye l'impôt à César. Mais c'est ça la foi. Il dit, lève tes yeux, regarde. Ce que tu vois, je te le donne. Tu vois quoi? Pose la question à ton frère. Tu vois quoi aujourd'hui? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Si tu n'as rien, c'est que tu vois rien. Ou du moins, si tu n'as rien de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est parce que tu vois trop ce que le diable te montre. te montre que tu es malade. Il te montre que le médecin a dit qu'il faut que ton père, on t'opère. Et si on opère, c'est assez délicat, c'est pas très sûr que l'opération va réussir. Et en fait, sur 5 cas, il n'y a eu qu'une seule réussite. Donc les chances sont assez minces, ce qui te concerne. Qu'est-ce que tu vois? Je vous assure que j'ai été formidablement surpris. Il y a une missionnaire qui est dans un pays anglophone africain. Le taux de sida était tellement grave dans ce pays-là. Mais elle a vu que dans la parole de Dieu, il est écrit que lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes déjà guéris. Et là, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Si la vie de Dieu entre en nous, ce qui est à l'intérieur de nous sera détruit. Elle a perçu ça. Elle a fait un orphelinat où elle reçoit des enfants qui sont atteints du sida. C'est passé à la télévision. Une missionnaire américaine. Elle prend ces enfants-là. Et le gouvernement est dépassé parce que les parents meurent. On ne sait plus quoi faire des enfants. Et elle a vu que dans la parole de Dieu, au-delà des systèmes humains, les enfants, s'ils sont élevés dans la parole de Dieu, s'ils ont la semence de la parole de Dieu en eux, ils peuvent être en bonne santé. Elle a construit un orphelinat. Elle a commencé à élever les enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, elle fait des cultes avec les enfants. Elle leur enseigne la parole de Dieu, la semence, la foi. Et les médecins eux-mêmes et les médias ont commencé à constater, bien-aimés, ils ont commencé à constater que de plus en plus, il y avait un taux important des enfants qui étaient récupérés par cette femme qui n'avait plus aucune trace du sida. Ton amen là ne me rassure pas. Alléluia! Je vous parle de quelque chose de puissant. C'est-à-dire que la parole de Dieu dans le corps et la vie d'un être humain détruit la maladie. Non seulement détruit, mais efface les traces de la maladie. Donc si tu es atteint même du sida, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peu importe, tu es atteint du sida, si tu perçois le sida, tu resteras dans le sida. Tu perçois la grippe A, tu resteras dans la grippe A. Tu perçois ta maladie, tu resteras dans la maladie. Mais si tu dépasses le stade de maladie, tu commences à percevoir la guérison de Christ acquise à la croix, tu seras guéri. Si au-delà de la maladie, tu commences à faire des projets, tu commences à te projeter, à dire dans 10 ans, je vais faire ceci, dans 15 ans, je vais faire cela, oh, bien-aimé, dans telle année, je vais faire telle chose, tu commences à vivre de façon à ne plus tenir compte de la maladie. La Bible déclare, en cet instant même déjà, tu es guéri. Tu es déjà guéri. Parce que la puissance de la perception se projette dans l'avenir. Et fais des projets, non selon moi, mais selon ce que Dieu a dit en ce qui me concerne. Il a dit que moi, j'ai des projets de paix et non de malheur. Et qu'il y a une espérance dans mon avenir. Et parce qu'il y a une espérance dans mon avenir, alors je m'attache à cette promesse et je projette ma foi dans mon avenir. Je fais des projets. Je rêve. Je rêve. Donc la puissance de la perception fait naître la puissance du rêve. Si tu ne rêves plus, c'est que tu es un homme mort. Il y a deux anomalies. Quand quelqu'un ne rêve pas et quand quelqu'un rêve mal, ce n'est pas normal. Quand tu ne rêves plus, ce n'est pas bon. Mais quand tu rêves mal aussi, ce n'est pas bon. Il faut que tu rêves. Parce que le rêve, c'est une capacité surnaturelle que Dieu a mis en nous, qui nous permet de percevoir les choses invisibles que Dieu a créées pour nous. Vous m'inquiétez. Ce que j'ai dit là, j'ai dit ça il y a quelques heures. C'était grave dans la salle. Je vous assure. Les gens crient. Alléluia! Parce qu'ils comprenaient les choses. Mais je vous libère des vérités spirituelles bien-aimées. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux pas concevoir ma vie s'arrêter sur la terre avant 120 ans. Non, je ne peux pas. Parce que ma Bible me dit le plus jeune mourra à 120 ans. Donc, si je dois mourir jeune, c'est à 120 ans. Mais attendez. Adam, il a péché. Il était déjà dans l'humanité. Il n'était plus dans la divinité. Il a quand même vécu 900 ans. Moi qui rêvais la divinité, je vais mourir avant lui. Soit Jésus revient avant et l'affaire est réglée. Alléluia. Soit je dois encore attendre. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas un sorcier qui va me tuer. Ce n'est pas une maladie qui va me tuer. C'est-à-dire que si je dois partir, je ne vais pas mourir, je vais partir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'apôtre Paul a dit, j'ai couru le bon combat. J'ai combattu, bon, j'ai achevé la course, maintenant je m'avance. C'est-à-dire que tu appelles tes enfants, tu leur dis, bon voilà, j'ai fait ça, le testament, j'explique tout, et puis après je m'endors. C'est comme ça, les divinités s'en vont. Ils ne meurent pas. Maintenant après, Dieu peut choisir la manière de te faire partir. Ok? Mais aucun homme ne peut mourir s'il le veut. C'est-à-dire que même pour que la mort entraîne quelqu'un, il faut que la personne ait lâché prise. Qu'elle ait accepté de mourir. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est fatiguée de se battre. Parce qu'elle est fatiguée physiquement. Elle n'a personne autour d'elle pour l'encourager, pour lui montrer vraiment qu'effectivement on est là avec toi. Beaucoup de personnes meurent comme ça. Parce qu'il n'y a aucune force derrière. Ça, c'est l'importance des pasteurs. L'importance des prophètes. Pour vous apporter des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement. Tiens bon, etc. La Bible dit que voilà pourquoi il est important de vous visiter, de visiter les malades, etc. Pour leur apporter des paroles d'espérance. Parce que des fois, il y a des gens qui meurent, ils acceptent de mourir, de s'en aller, parce qu'ils n'ont plus de force, il n'y a personne pour les fortifier. Mais aussi longtemps que la volonté de l'être humain sera fortifiée, la mort, la maladie ne pourra jamais l'emporter. Alléluia. Je vous parle de la puissance de la perception. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Si tu n'as rien, c'est parce que tu ne vois rien. Je vais terminer avec l'histoire de cette dame qui était atteinte d'une perte de sang. Comment vous pouvez concevoir quelqu'un qui est atteint d'une perte de sang? Les médecins l'ont dit, elle a tout essayé. Elle a dépensé beaucoup d'argent, nous dit la Bible. Allez voir les médecins, elle a tout essayé. Elle perdait du sang tous les jours. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle a vu Jésus, elle a vu en Jésus, au-delà d'un simple homme, elle a vu en Jésus quelque chose qu'elle recherchait. Elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. À l'insu de Jésus, bien-aimé, au point que Jésus s'est même retourné pour se demander, mais attends, qui m'a touché? Parce qu'elle a perçu en lui la guérison. Elle a touché la robe de Jésus à l'instant, la guérison l'a traversée, elle fut guérie. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Dans la situation où tu te trouves, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que tu es à Canaan, malédiction, dans un trou, dans l'épreuve, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, tous les jours tu médites ces choses, tu rumines ces choses. Vous savez, la nature même nous exauce. Le monde spirituel nous exauce. Quand Pierre est dans l'eau, en fait, quand Pierre aperçoit Jésus et il dit à Jésus, si c'est vraiment toi, fais que je vienne. Pierre aperçut Jésus et Pierre se voyait déjà en train de marcher sur l'eau comme Jésus. Voilà pourquoi il a dit, si c'est toi, fais que je vienne. Alors, il a marché sur l'eau. Mais quelques temps plus tard, la tempête a soufflé. Et à l'instant, Pierre s'est déconnecté. Il est sorti de la sphère divine. Il a commencé à regarder les réalités. Il a vu une tempête, un vent qui a soufflé. Et là, il s'est souvenu que le vent là ressemble à l'orage qui nous avait attaqué quand on était avec Marc, Jacques, dans tel jour, à telle année là. Et puis, je me souviens qu'un jour, un vent commençait à nous attaquer et puis il y a des pêcheurs qui sont morts. Et je me souviens qu'un jour, Mathias s'est noyé. Vous comprenez? Donc, il a commencé à penser à toutes ces choses-là. Et pendant qu'il pensait, il méditait. Donc, cette pensée est devenue une pensée dominante en lui. Parce que ce qui fait les dégâts, ce ne sont pas les pensées qui viennent à gauche, à droite, comme ça, qu'on peut chasser. Oh, laisse-moi. Non. C'est pas ça le problème. Tout le monde peut avoir de mauvaises pensées, mais tant qu'un oiseau il vole autour de ta tête, ici, il peut pas faire un nid, c'est pas un problème. OK? Mais à partir du moment où l'oiseau se pose et qu'il trouve à manger, ça devient grave. Alléluia. Et les pensées agissent pareil. Les pensées qui viennent à gauche, à droite, c'est pas ça, ça c'est pas un problème. Des fois, on fait des rêves à gauche, à droite. Bon, vous savez, mais ça n'a pas de sens. Oh, bon, j'étais à Auchan. Après, Auchan, du coup, je me suis retrouvé à l'église. Et après, j'ai vu le frère Ama dans le métro. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu as vu mon gâteau? Mais je lui ai posé, mais quel gâteau? C'est quoi quel gâteau? Et puis, il m'a dit, non, je voulais parler du pain. Et après, j'ai vu la sœur Liliane en train de servir de l'eau à un enfant. Ça va dans tous les sens. Hein? C'est un peu ouya ouya. Hein? C'est un peu comme yo-yo là. Okay? Ça, c'est bon, les préoccupations de la journée, ça, c'est normal, c'est humain. Ça, ce ne sont pas les pensées qui créent des problèmes. Alléluia! Mais la pensée qui crée un problème, c'est celle qui trouve la place dans ton cœur. Harcelin. Harcelin, mon Dieu, harcelin. Un frère que j'aime beaucoup, il m'a dit ça. C'est lui qui ose me parler comme ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Harcelin, mon Dieu. Tu rentres à la maison, harcelin. Tu veux manger, Seigneur, merci pour ce repas. Harcelin. Tu dors. Avant de dormir, tu passes au moins 3 heures en train de prendre. Comment il a pu me faire ça? C'est harcelin. Un jour, harcelin. 2 jours, harcelin. 3, une semaine, harcelin. C'est fini. Ça devient une pensée dominante. Et la nature même, le monde spirituel va t'exaucer. Oui. Il va voir ça. Harcelin. Si c'est moi, en tout cas, je vais voir comment. C'est fini. Il commence à voir lui-même des problèmes. Et c'est là que la Bible déclare que celui qui est son frère commet un meurtre. Parce que cette pensée s'est installée en toi. Elle est devenue une pensée dominante. Elle a pris racine. Elle est devenue ce qu'on appelle, au-delà d'une pensée, elle a dépassé au-delà des pensées, elle devient une haine. Et ça va commencer à créer des problèmes au frère. C'est le début de la sorcellerie. C'est parti d'une simple pensée. Qu'est-ce que tu perçois? Mais si Arsène t'a fait ça, tu dis, oh, c'est sûr que vraiment il était un peu fatigué. Parce que moi, je connais Arsène. Il ne fait pas ça. Non, il n'a pas fait attention. Tu passes. Il n'y aura aucune gangrène d'amertume dans ton cœur. Il n'y aura pas de sentiment de colère. Et tu continues. Et je pourrais citer beaucoup d'exemples dans ce sens-là, dans plusieurs domaines, qui sont aujourd'hui pour nous des pensées dominantes et qui gouvernent nos vies, qui conditionnent nos comportements, nos actions. Pourquoi? Mais c'est fonction de ce que nous percevons au travers d'un comportement d'un frère, au travers d'une parole d'un frère, au travers d'une attitude, au travers d'une atmosphère, au travers d'une circonstance. Nous percevons des choses, nous tirons des conclusions et nous nous positionnons là-dessus et nous obtenons ce que nous percevons. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Si je perçois un couple où, quand je rentre à la maison, je me dis encore, ouh, qu'est-ce qu'elle va encore me dire aujourd'hui? Je préfère rester au boulot. Parce que franchement, je me sens encore mieux. Et puis quand je vais rentrer à la maison, au moins tout le monde dort déjà et puis je vais m'endormir. Tu perçois un couple où il y a tout le temps des problèmes, tu vivras des problèmes. Il y avait une femme comme ça, chaque jour, le pasteur dit, pasteur, mon mari là, quand il rentre à la maison, tous les jours il y a des problèmes. Quand je suis seul, tout va bien. Mais dès qu'ils franchissent aussi la porte à la maison, tous les jours, le problème. Le pasteur a fait cure d'âme. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Mais le problème, c'est qu'un jour, le Seigneur a dit au pasteur que le problème, ce n'est pas le mari. Le mari n'était pas chrétien, certes, mais le mari respectait sa foi. Le problème, c'était elle. Elle parlait beaucoup. C'était une femme querelleuse. Et le pasteur lui a dit, écoute, maintenant j'ai une parole de Dieu pour toi. Elle dit, oh, vas-y, parle, pasteur. Le pasteur a dit que quand tu vas rentrer chez toi, dès que tu entends la voiture de ton mari ronfler déjà à l'entrée du portail, cours vite prendre 3 verres d'eau. Tu bois le premier verre, tu avales. Tu prends le deuxième verre, tu bois, tu avales. Mais le troisième verre, ne l'avale pas. Tu bois, tu gardes l'eau dans la bouche. Écoutez-moi bien. Quand ton mari rentre, tu te précipites vite. Tu le salues, mais tu ne parles pas. Tu gardes l'eau à la bouche, tu n'avales pas. Tu lui fais des bisous, tu fais la table. Il mange. Pendant tout ce temps, tu n'avales pas de l'eau. Est-ce que tu m'as compris? Oui, pasteur. Alors, quand il aura fini de manger, maintenant tu peux avaler de l'eau et tu lui poses les questions. Comment il a passé la journée? Comment ça s'est passé, etc., etc. Et tu fais ça pendant 7 jours. 3 verres d'eau, 7 jours. Elle dit, oui, pasteur. Quand elle est partie, elle a mis ça en application. Après 7 jours, elle a couru voir le pasteur. Pasteur, ça marche! Il n'y a plus de problème à la maison! Mon mari devient le plus aimant du monde.
Le pasteur a dit qu'en fait, le problème, ce n'était pas ton mari. Et quand je t'ai dit ça, ce n'était pas que j'ai reçu une révélation de Dieu. C'est parce que j'ai compris que c'est toi le problème. C'était ta bouche.
Et comme son intelligence était paramétrée dans un contexte et une culture de superstition, le pasteur est venu dans sa sphère pour l'aider. Et ce qui marchait avec elle, c'était ça. Tout ce qui est un peu spirituel là. Trois jours, sept jours, de l'eau, de l'huile, imposition des mains. Hein, vous comprenez, non? Donc le pasteur est venu sur son terrain. Et ça a marché. Ça a marché en fonction de quoi? En fonction de ce qu'elle percevait. Simplement. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai travaillé dans une entreprise pendant l'été où on vendait des osmoseurs, des machines qui transforment l'eau calcaireuse en eau minérale. On arrive dans une campagne. Il y a une dame qui était malade. Et le commercial, le chef de vente, avait un argumentaire trop puissant. Il dit, cette eau-là est capable même de te guérir. Cette dame était atteinte d'une maladie, mais compliquée, due effectivement au calcaire, au débris d'eau. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est des machines qui coûtent 7 000, 8 000 euros. Elle a signé l'échec. On a installé la machine. Quelques temps plus tard, on appelle pour savoir est-ce que ça fonctionne bien. Elle dit, oh, franchement, votre eau, elle est vraiment magique. Depuis que je la bois, je ne suis plus malade. Quelques temps plus tard, le service après-vente va passer pour vérifier les installations, pour savoir si c'était bien installé ou pas. Quand ils arrivent, ils vérifient, ils nous appellent. Ils nous disent, non, la machine n'a jamais fonctionné. Secret professionnel oblige, on ne pouvait pas dire ça à la dame. Sinon, ça devait faire des procès, des procès, des procès. Donc, tranquillement, le technicien est passé faire un contrôle routinier. Et il a réparé la situation. Ce n'est qu'après la réparation, je vous dis 3 mois plus tard, que la femme a commencé à boire de l'eau minérale. Mais pendant 3 mois, elle buvait l'eau calcaireuse, mais n'était plus malade. Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle de la puissance de la perception. Et c'est le point numéro un, la foi. Qu'est-ce que tu perçois? Et Dieu travaille avec ça. Dieu travaille avec ça. La prochaine fois, je vous parlerai de la puissance, de la connaissance, de la loi de la connaissance. Mais quand vous avez compris ça, bien-aimé, votre vie va changer. Moi, aujourd'hui, je ne me conçois pas être malade, être déprimé, vivre un jour dans la dépression. Non, ça n'est pas.
Comme dans un endroit plus grand, je me sentirai toujours à l'aise. Avec ma femme, je me sens très à l'aise. Avec mes enfants, même quand l'enfant pleure, je suis à l'aise. Il y en a qui ne supportent pas dans le bruit. Tout dépend de ce que tu perçois. Alléluia. Je pourrais prendre autant d'exemples, béni. Mais c'est puissant, la loi de la perception. Et quand on a compris ça, on rentre dans la sphère divine. On commence à détecter des choses. Je vous ai dit hier que tout ce que Dieu nous donne, il a déjà créé ça. Ça existe. Ce n'est pas la première fois qu'Adam a vu le lion. Le mot lion existait déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il avait vu Ève. Ève existait. Tout ce que nous avons, la guérison existe déjà. Les enfants que tu recherches, ils existent déjà. Le mari que tu cherches, il existe déjà. La femme que tu cherches, elle existe déjà. Le travail que tu cherches, il existe déjà. Tout ce que tu recherches, ça existe déjà. Mais c'est quelque part dans le monde invisible. Et ce n'est que par la puissance de la perception que tu pourras amener les choses qui ne sont pas à l'existence. Alléluia! Et quand tu as compris ça, tu vis ça tous les jours, ta vie change. Ta vie change. Pourquoi tu veux être triste? À partir de maintenant, choisis de vivre. J'ai dit, choisis de vivre. Choisis de vivre. Comment pouvez-vous concevoir un peuple qui est esclave à Babylone? Il est esclave dans la souffrance. Dieu leur dit quand même, plantez des vignes, bâtissez des maisons, mariez-vous, mariez vos enfants. Mais ils sont en esclavage. Ils sont en esclavage, bien-aimés. Comment un homme esclave va vivre comme un homme libre? Ils étaient esclaves de corps, mais Dieu voulait qu'ils soient libres d'esprit. Voilà ce que Dieu attend de toi pour que ta vie change. Sinon, je pourrais prier pour toi, te faire les bains d'huile, te faire les positions de main. Ça ne changera rien. Tout dépend de ce que tu perçois.
Alléluia. Est-ce que tu perçois quelque chose aujourd'hui? Lève ta main. Alléluia. Dis, je la saisis. Je la saisis. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier. Je la saisis. Tout ce que tu vois, je te le donne. Alléluia. Si tu vois ta guérison, tu la saisis aujourd'hui. Si tu vois ta délivrance, tu la saisis aujourd'hui. Si tu vois tes enfants, tu les saisis aujourd'hui. Si tu vois ton travail, tu le saisis aujourd'hui. Si tu vois ta situation administrative changer, tu la saisis aujourd'hui. Ton miracle, tu le saisis. Alléluia. En fait, ce que j'appelle miracle aujourd'hui, pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Pour quelqu'un qui est dans la nature divine, il n'y a plus de miracle. Le miracle
n'existe pas parce que c'est la normale, c'est la vie quotidienne. Dieu vit tous les jours dans ce qui est bien, dans ce qui est la vie. Il ne connaît pas les miracles. Parce que le miracle, c'est pour l'être humain. Il est dans une situation humaine et il veut voir quelque chose d'extraordinaire. Le miracle, c'est pas pour les dieux. Oh, bien-aimé, mais comme tu es encore être humain, alors on peut encore prier pour toi. Tu as encore besoin de dons spirituels pour commencer à réveiller la nature divine. Mais quand tu seras rentré dans la sphère divine, tu n'auras même plus besoin de prier. Tout ce que tu voudras, tu l'obtiendras. Parce que tu n'auras pas besoin de prier, tu auras seulement besoin d'appliquer les lois divines et tu auras des résultats tous les jours dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, dans toute ta sphère que Dieu te donne de gouverner. Tu auras seulement besoin d'appliquer les lois divines et tu obtiendras tout ce dont tu auras besoin.
Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un saisisse quelque chose dans l'esprit maintenant. Que quelqu'un commence à saisir quelque chose qu'il voit, qu'il perçoit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu me donnes. Pour ce que tu m'as promis. Je le perçois, je le vois. Je le saisis et je me l'approprie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi souvent et prions. Pas des prières de demande, mais des prières de possession. Je prends ceci Seigneur, je prends cela. Je pense ici, Seigneur, merci pour le travail. Alléluia, Seigneur, merci pour la promotion. Merci, Seigneur, pour la délivrance de telles choses. Merci pour la guérison de telles maladies. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ma mère qui est guérie. Merci pour mon père qui est guéri. Merci pour mon frère qui trouve un emploi. Merci pour ma fille qui est restaurée, qui est guérie. Merci pour mon fils qui est guéri. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ma fille qui trouve du travail. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour moi-même qui passe mon permis, qui va l'obtenir. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ma femme qui enfante. Merci Seigneur oh Dieu, pour ma sœur qui enfante. Merci Seigneur oh Dieu, pour mon frère qui a les papiers maintenant. Depuis des années, on lui a refusé la nationalité, on lui a refusé le titre de séjour. Merci Seigneur, parce que maintenant il obtient. Merci parce que je vois une autorité qui prend un stylo, qui est en train de signer un dossier, qui est resté bloqué depuis des années, quelque part dans un tiroir de l'administration. Merci Seigneur, oh Dieu du ciel et de la terre, parce que je vois quelqu'un dans cet endroit à qui, Seigneur, oh Dieu, on a imputé justice alors qu'il méritait la justice. Alors maintenant, je le vois, Seigneur, oh Dieu, en train d'être acquitté. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as accompli en sa faveur ta justice. Merci, Seigneur, pour cette femme qui est atteinte d'une stérilité secondaire. Elle ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle a déjà eu un enfant, elle n'arrive toujours pas à avoir des enfants. Je te bénis, Seigneur, parce que je vois des nœuds dans son ventre qui se détachent. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois ses entrailles être libérées. Et je vois cette femme enceinte en ce moment. Je la vois enceinte parce que, Seigneur, oh Dieu, tu me donnes le percevoir en esprit. Et je vois quelqu'un, alléluia, dans cette salle qui est en train d'être visité dans sa bassesse. «
Je vois le ministère de quelqu'un en train d'être libéré en cet instant. Je vois le ministère de quelqu'un décoller dans cet endroit. Je vois le ministère de quelqu'un décoller. Je vois quelqu'un qui faisait tous les jours des rêves, des cauchemars, qui ne pouvait pas bien dormir. Je vois son intelligence être renouvelée. Je vois son système de sommeil être restauré. Et je le vois en train de rêver, mais de bons rêves. Je le vois en train de dormir dans la paix, la douce paix de Dieu. Je vois quelqu'un ici qui ne comprend pas pourquoi il y a autant de blocages dans sa vie et qui a compris que tout ne dépend pas des situations autour de lui, ni de la position dans laquelle il se trouve, ni des gens qui font ces choses, mais tout dépend de sa capacité à percevoir les choses que Dieu a prévues pour lui. Alors je vois cette personne transcender les réalités, alléluia, et s'en foutre des hommes qui font ça, s'en foutre des personnes qui lui veulent du mal. Je vois cette personne être libérée du poids de la peur, être libérée du joug de la terreur, être libérée des conditions humaines, et qui commence à voir sa vie changer. Je vois cette personne rentrer par des portes qui sont restées fermées depuis longtemps. Je vois un étudiant ici qui avait tout le temps des trous de mémoire. Je vois sa tête être restaurée par la puissante main de Dieu. Et je vois et j'entends le Saint-Esprit qui dit, alléluia, au sujet de cette personne. Maintenant, je restaure ta mémoire. Je restaure ta mémoire. Je rétablis tes capacités neuronales. Je rétablis tes capacités neuronales. Je rétablis ton système intellectuel. Je restaure, je reparamètre. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de trous de mémoire. Tout ce que tu vas étudier restera. Et en plus de cela, tu vas transcender même des mystères que même l'homme ne t'a jamais enseigné. Je vois des guérisons dans la tête. Je vois des guérisons dans l'intelligence. Je vois des guérisons dans la mémoire. Je vois des guérisons dans le foie. Je vois des guérisons dans les entrailles. Je vois des guérisons dans les veines. Je vois des guérisons dans le sang. Je vois des guérisons dans les globules. Je vois des guérisons dans le corps. Je vois des guérisons dans l'âme. Je vois des guérisons dans les émotions. Je vois des guérisons dans les sentiments. Je vois des guérisons dans la pensée. Et si quelqu'un voit ces choses avec moi, qui disent, je saisis, c'est pour moi, Seigneur. Et ma vie ne sera plus jamais la même. À partir de maintenant, ma vie ne sera plus jamais la même. Je saisis, c'est pour moi, Seigneur. Je saisis, c'est pour moi, Seigneur. Je saisis, c'est la puissance de la perception, la première dimension de la foi, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Merci Seigneur. Et je scelle toutes ces choses. Et toutes ces personnes, ces paroles de foi qu'elles ont confessées. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus que toutes ces personnes les verront s'accomplir. Car cela est ta parole. Je te bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.